France Inter, le 7-9. Intervenez.
Avec Léa Salamé, notre invitée ce matin, et députée La République En Marche du Val d'Oise, Aurélien Taché. Dialoguez, posez-lui vos questions, amis auditeurs, 01 45 24 7000. C'est Yann de Bretagne, qui ouvre ce dialogue. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, ma question est très simple, c'est comment allez-vous faire alors que les agents de Pôle emploi sont pas formés et au jour d'aujourd'hui, c'est un enfer pour un migrant qui a eu l'asile de pouvoir s'inscrire à la NPE. Et la réalité, c'est qu'au bout de 3 mois, une fois qu'ils ont eu l'asile, ils sont mis dehors des dispositifs et se retrouvent en règle générale, dans un labyrinthe administratif qui continue pour eux. Et ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Comment allez-vous faire ?
Merci Yann pour cette question. Aurélien Taché.
Oui, ben votre question, elle est effectivement très pertinente dans le sens où aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on pense l'accueil, mais on pense pas la suite. Moi, dans le rapport, je fais une proposition simple pour éviter ce que vous dites, c'est que dès que la personne a eu sa décision d'asile ou son titre de séjour, elle soit accompagnée par un acteur spécialisé sur l'insertion professionnelle. Ça pourrait être l'AFPA, par exemple, puisque, comme vous le dites très bien, Pôle emploi est déjà très chargé et n'a pas forcément cette compétence-là, pour voir ce qu'on peut faire avec la personne, pour voir quelles sont ses expériences, ses diplômes, ses compétences, pour voir quel travail elle a envie de faire, et ensuite construire des parcours qui permettent de répondre en fonction de ce qu'aura donné ce premier entretien et qu'il soit proposé à tous les étrangers qui ont eu un titre de séjour, à tous les étrangers qui ont eu un titre de séjour.
Vous aurez les moyens de ces ambitions, c'est ce que disait Yann, hein, Pôle emploi est déjà saturé.
Non, tout à fait, c'est pour ça qu'il faut demander à un autre acteur, un acteur qui est, l'AFPA par exemple, c'est un acteur qui est vraiment spécialisé dans l'accompagnement des publics éloignés de l'emploi, et donc pouvoir regarder dès le départ ce que l'étranger peut faire, sait faire, pouvoir aussi regarder s'il y a des métiers où on a besoin en France, des régions où on pourrait recruter, parce que c'est j'ai vu un certain nombre d'expériences de ce type-là où des entreprises avaient recruté des réfugiés et où ça se passait très bien, même si elles pourraient faire encore beaucoup plus s'il y avait un accompagnement qui était mis en place. Donc c'est ça qu'on va proposer.
Juste une question de suivi, elle nous vient via Twitter. Claire Allais, qui est rédactrice en chef adjointe d'Alter Echo, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, demande de mettre fin complètement au délit de solidarité, de ne poursuivre que les passeurs et les réseaux de traite. Pourquoi pas Aurélien Taché, point d'interrogation.
Mais encore une fois, pour moi, ce qui reste du délit de solidarité, c'est bien son objet. Donc regardons si d'autres Français sont condamnés alors qu'ils n'avaient rien fait d'autre qu'apporter une forme d'assistance sans contrepartie. Et à ce moment-là, la question se poserait, mais je ne crois pas que ce soit le cas.
Alice, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
C'est pour faire remonter un témoignage que j'entends beaucoup de la part des membres de Singa qui sont des réfugiés ou des demandeurs d'asile. C'est qu'en plus des procédures qui peuvent être extrêmement lourdes et complexes, il y a aussi un problème qu'ils rencontrent énormément, c'est le sentiment de ne pas avoir leur mot à dire et le sentiment d'être mal perçu dès l'arrivée de la part des autorités ou des agents de l'État, et qu'il y a assez peu de possibilités finalement de créer un récit commun, d'avoir la possibilité de contribuer à la société d'accueil. En tout cas, c'est pas le sentiment qui peut revenir, alors qu'il y a des histoires assez formidables, et je pense qu'il y a vraiment besoin de raconter les témoignages des personnes et ce qu'elles apportent en France. Par exemple, dans le cadre de l'accueil chez l'habitant, dans les zones rurales qui sont souvent désertées, où elles peuvent créer des AMAP, où elles lancent des activités agricoles, où finalement elles peuvent retrouver des compétences et retrouver une vie, et surtout raconter comment elles vont le faire et pas être considérées uniquement comme des bénéficiaires, mais aussi comme des acteurs à part entière de la société.
Merci Alice, vous voulez dire un mot sur ce témoignage, Aurélien Taché ?
Oui, non mais moi je suis convaincu effectivement que ceux qui se sont intégrés, les réfugiés qui vivent en France depuis, ou les étrangers qui vivent en France depuis des années, peuvent, ce sera très utile qu'ils puissent échanger, qu'ils puissent venir parler à ceux qui arrivent. Moi je propose par exemple que les fameux cours là de civisme qu'on donne aux étrangers qui arrivent, et très sincèrement il faut voir à quoi ressemblent ces cours aujourd'hui, hein. On vous fait l'ordonnance de Villers-Cotterêts, Charlemagne et la laïcité en 6 heures dans une salle. Enfin voilà, c'est, je pense qu'on pourrait parler du pays et de la France un peu différemment, et je pense que si on avait vraiment quelque chose de plus ouvert, des étrangers, des réfugiés pourraient aussi venir parler de leur intégration.
Jean est au standard. Jean de Montpellier, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Non, juste une question, je voulais réagir par rapport à la revue de presse. On a beaucoup parlé de l'affaire de l'UNEF dévoilée par Libération. Il se trouve que votre invité a été président de l'UNEF, alors pas à Paris, mais à Limoges. Mais comme le chantait Brassens, c'est pas seulement à Paris que le crime fleurit. Nous, au village aussi, on a de beaux assassinats. Donc, est-ce qu'il a aussi des témoignages? Enfin, qu'est-ce que ça suscite comme réaction éventuellement chez lui?
Merci Jean pour cette question. Aurélien Taché.
Écoutez, quand j'ai écouté ce qui était rapporté tout à l'heure, ça a d'abord beaucoup de tristesse, parce que moi, ça correspond pas du tout aux années que j'ai vécues à l'UNEF, qui étaient des années heureuses, hein, quand on est étudiant, qu'on s'engage. Voilà, moi, j'ai pas eu à avoir de tels agissements, et quelque part, j'ai eu bien de la chance. Donc, encore une fois, beaucoup de tristesse, beaucoup de violence dans ce qui a été rapporté. Voilà, moi, j'étais dans... Je faisais effectivement partie de l'UNEF, mais nous on était un petit groupe qui était finalement assez loin de la direction de ce syndicat.
Oui, mais vous étiez président de l'UNEF Limoges pendant la période incriminée, c'est-à-dire entre 2007 et 2015. Les faits se sont produits entre 2007 et 2015. Vous étiez président de l'UNEF Limoges. Oui. Vous dites que c'est l'ancien monde. Vous avez la dichotomie ancien monde, nouveau monde. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes dans le nouveau monde. Est-ce que clairement jamais vous n'avez entendu parler de ça? Je veux pas vous dire yeux dans les yeux parce que elle est éculée, mais jamais rien.
J'ai pu constater que l'UNEF, de par cette espèce de culte du chef que pouvaient avoir notamment les militants ou on disait les camarades à l'époque de ce syndicat, avait pour la direction et pour ce qu'on appelait la tendance majoritaire. Enfin voilà, parce que c'est comme ça que c'était construit à l'UNEF. Moi, effectivement, j'étais engagé à gauche, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, j'aurais jamais pu être dans un courant politique, une famille de pensée qui est dans ce culte du chef. C'est très loin de la manière dont je conçois le progressisme, l'idée de liberté. Et donc non, j'ai jamais, au-delà de ce que j'ai pu voir comme cette manière de fonctionner là qui peut après amener à des dérives, jamais pu voir des faits précis ou avoir connaissance de violences telles que
ça
a été évoqué tout à l'heure.
Ça se disait, parce que là on a l'impression que c'était un véritable système mis en place, un droit de cuissage, c'était...
Moi, je vous mentirais si je vous disais que j'avais pas pu constater un certain machisme, mais jamais quelque chose qui est de l'ordre de ce système que vous évoquez ou de la violence que vous évoquez.
Oui, Léa.
Une autre question d'actualité, j'imagine que vous l'avez pas loupé puisque c'est les enregistrements de Laurent Wauquiez. En langage, Laurent Wauquiez, vous êtes un guignol, Aurélien Taché, en même temps que tous les députés de La République En Marche. Vous avez vu les guignols d'En Marche, ils sont tous avec le petit doigt sur la couture. Ils doivent tous voter la même chose. Quand ils osent apporter la moindre dissonance, ils se font taper dessus avec une matraque. Il n'y a aucun équilibre des pouvoirs en France, il y a une dictature totale.
Aurélien Taché.
Écoutez, Laurent Wauquiez qui me prend pour un guignol, c'est presque un compliment. Mais par contre, si on doit vraiment... Moi, j'attends les leçons de démocratie de Laurent Wauquiez. J'attends de voir les députés LR, dans quelle mesure il va se satisfaire de cette ouverte autonomie, liberté de parole qui lui semble manquer à La République En Marche. J'attends vraiment avec impatience de voir les réactions, parce que je pense qu'elles ne manqueront pas d'arriver, étant donné les positions que défend Laurent Wauquiez de la part de ses amis au groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale.
Bon, elles sont déjà là.
Oui,
il n'y a pas d'unité à LR.
Ouais, un certain nombre d'entre elles sont déjà là, mais j'ai pas le sentiment que Laurent Wauquiez se satisfasse beaucoup de finalement cette pluralité dans ses rangs. Donc voilà, je trouve qu'il peut garder les leçons qu'il essaye de nous faire.
On retourne au standard. Bonjour Benjamin.
Oui, bonjour. Je voudrais poser une question. J'ai une toute petite remarque préliminaire. Moi, j'ai été victime de délits de solidarité. Pendant 5 ans, j'ai milité pour la régularisation, la liberté de circulation et l'installation des sans-papiers. Et je me suis fait gazer 8 fois en 5 ans sous le gouvernement Sarkozy et Hollande. Voilà, alors que j'ai jamais eu une action violente. Mmh. Et du coup, ma remarque, c'est que j'habite dans un petit village où le Front National a fait un gros score au tour des présidentielles de l'ordre de 40%. Et je sais que, alors qu'il y a très très peu même quasiment pas de population étrangère ou migrante, je sais que c'est quelque chose qui se reproduit dans énormément de villages de France. Et je voudrais savoir, dans le louable volonté d'intégration des étrangers en France, comment on peut faire pour changer les mentalités des Français? Parce que on peut pas intégrer des gens si les Français, alors qu'ils ils sont dans une peur irrationnelle. Il y a personne ici qui vient leur voler leur identité. Il y a personne ici qui vient leur prendre leur travail. Et le Front National fait un score extraordinaire, alors qu'il y a des villes comme en région parisienne, par exemple, où il y a des taux d'immigration qui sont très importants et où le Front National, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment confrontés aux populations étrangères, ne sont pas racistes, sont plutôt accueillantes et tout ça. Donc comment on fait pour aller vers les Français pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque.
Merci. Voilà. Merci Benjamin, bien compris. Pour vous citer à nouveau, comment réinterroger notre rapport à l'altérité et ainsi nous donner les moyens de réellement faire société. C'est une variation et un témoignage sur ce thème-là. Merci Benjamin. Aurélien Taché.
Bon, d'abord, il faut le dire. D'abord, je pense que on a une responsabilité collective là-dedans, et d'abord les élus, d'abord les responsables politiques, de dire qu'effectivement, il n'y a pas de danger à accueillir des étrangers en France parce qu'on les protège au nom de l'asile, parce qu'ils viennent rejoindre de la famille en France, parce qu'ils viennent y construire une partie de leur vie. Donc, la première responsabilité, c'est celle-là. Elle a peut-être manqué ces dernières années de part et d'autre du spectre politique, de dire qu'effectivement, on peut avoir une immigration en France et que ça peut bien se passer à condition de s'en donner les moyens. Et après, il y a un certain nombre de questions qui se posent, effectivement. Qu'est-ce que les gens vont faire une fois qu'ils sont ici? Eh bien, c'est à ces questions que j'essaie modestement de répondre en disant qu'il faut pouvoir leur permettre d'apprendre le français, leur permettre de travailler. Et il y a toute une série de propositions comme ça. Et ensuite, bien sûr, d'encourager les Français aussi qui se lancent dans des démarches solidaires comme la vôtre. Moi, je propose par exemple qu'on crée un crédit d'impôt pour les Français qui hébergent des réfugiés. Voilà, il y a plein d'idées comme ça. On peut avancer sur cette question de l'intégration à condition d'en faire une priorité. Ça n'a pas été le cas jusqu'ici.
Une question d'Olivier via l'application France Inter, je pense. Merci Aurélien pour votre excellent rapport. Que pensez-vous de l'application du règlement Dublin 3 qui permet d'expulser les demandeurs d'asile vers les pays d'entrée où ils font face à un encombrement administratif? Je poursuis les questions. Leur prise en charge est souvent bonne en France. On les arrête, on les menotte et on les renvoie à la rue en Italie ou en Grèce. Quid de l'hypocrisie sous-jacente de l'Italie qui perçoit les subventions européennes et la France qui les paye et du coup se rejette la responsabilité l'une l'autre du traitement de la demande.
Aurélien Effectivement, Taché. Là, on est sur l'aberration du système tel qu'il est construit aujourd'hui en Europe. Et moi, je suis vraiment convaincu, et Emmanuel Macron l'a rappelé quand il était à Calais, qu'on doit avancer vers un droit d'asile européen, qu'on doit avancer vers un OFPRA européen pour que ces demandes elles soient traitées au niveau européen, et que dans l'attente de ce droit d'asile européen, et j'espère que ce sera un sujet majeur des prochaines élections européennes, en tout cas, c'est un vœu que je fais ce matin à votre antenne, on doit regarder comment un pays comme l'Italie peut aussi être un peu soulagé. Quand des gens ont vu leur demande d'asile déboutée quelque part, comme en Allemagne ou ailleurs, c'est normal qu'on dise, à mon sens, voilà, c'est terminé pour l'asile. Par contre, quand quelqu'un arrive en Italie et qu'il y a laissé ses empreintes et pas toujours de son gré, on doit se demander comment on peut avoir une plus grande solidarité dans l'accueil en Europe. Oui, ça, je crois que c'est important.
Isabelle, du 18e arrondissement de Paris, vous pose la question suivante. Elle est assistante sociale. Pourquoi l'accueil change selon les préfectures?
Alors, je pense que la situation est très diverse d'une préfecture à l'autre.
Voilà, parce
que
vous précisément.
Avez, non, mais vous avez, enfin, en région parisienne, à Calais, ou dans l'Est, ou dans le Sud de la France, des parts importantes de population qui arrivent dans d'autres préfectures qui sont moins confrontées à ça. J'imagine qu'on a la possibilité d'avoir des traitements, peut-être, où on passe plus de temps sur l'accueil de chacun des étrangers. Donc, je pense qu'il y a une réalité de terrain qui fait que, malheureusement, on a des situations différentes.
Aurélien Taché au micro d'Inter.